magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde où nous allons parler cette semaine d'une star, d'une actrice au talent et à la plastique et à la voix unique, Kate Hepburn. Son amant Spencer Tracy disait « Il n'y a pas beaucoup de viande sur elle, mais tout est de premier choix », tandis que bien plus tard, la critique américaine Pauline Kael clamera son amour d'Hepburn et du besoin, hein, je la cite, que du besoin que nous avons d'avoir des femmes, des actrices qui savent vieillir avec grâce à l'écran. Entre les deux, 60 ans de carrière couronnée par 4 Oscars, encore un record à ce jour. Une actrice unique, je le disais, dont la persona cinématographique résulte d'une alchimie déconcertante, une silhouette longue, mince et musclée, assez peu conforme aux idéaux esthétiques de l'avant-guerre, un timbre de voix métallique et une personnalité au charme fou, mais qui n'eut pas que des admirateurs loin de là pendant plusieurs années. Elle fut même affublée de l'étiquette humiliante de box-office poison, poison du box-office, tandis que les caricaturistes se livraient avec délice à des imitations de sa voix. Kate Hepburn, Catherine Houghton Hepburn, était née en 1907 dans une famille de la haute bourgeoisie de la côte Est. Ses origines vont informer toute sa carrière, pour le meilleur et pour le pire, faire d'elle à Hollywood l'héritière archétypique, désinvolte, pleine d'esprit, mais monstrueusement têtue, péremptoire, mais loufoque, et surtout si délicieusement arrogante. Hein. Je suis sûre que j'en oublie Marguerite Chabrol, mais on aura amplement l'occasion d'en parler avec vous dans cette émission. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un extrait remarquable sur Hepburn, Catherine Hepburn, paradoxe de la comédienne aux presses universitaires de Rennes. Et bonjour Clara et Julia Kuperberg, vous êtes de fines connaisseuses du cinéma américain, vous lui avez consacré, réalisé et produit de nombreux documentaires, entre autres un sur les sorcières à Hollywood qui est programmé en ce moment même sur OCS, vous l'avez produit. Et vous êtes fan de screwball comédie, donc de comédie loufoque, un genre qui allait comme un gant à Kate Hepburn, bonjour.
Bonjour.
Mais pour l'heure, nous partons à Londres où un jeune escroc à casquette tente d'extorquer quelques menu-monnaies à des bourgeois naïfs. Ce jeune garçon n'est autre que Kate Hepburn. Elle a 28 ans à l'époque, elle a l'air d'en avoir 15 et elle en a du bagou et de la répartie. Et tout ça en français, s'il vous plaît.
Mon père n'est qu'un soulard, un pour rien et un voleur.
Oh, his father being a hopeless drunkard, a good-for-nothing thief who...
Alors, je rencontrais un Anglais qui a pris toutes mes économies et m'a promis un bon emploi à Londres.
Ah, he says he met an Englishman in Paris,
oui,
who promised him employment, took all his savings and promised to give him work when he got to London. Et alors?
Oh, je ne peux pas le dire, si il arrive.
Quoi donc?
Je n'ai jamais un fait.
Well,
what happened?
What did the young fellow say?
What happened?
The Englishman never turned up again. Oh. Dear,
this sounds like an infamous racket. Probably the work of an organized gang. I know what I mean to do. Voilà, garçon. Here is a pound for
you. Oh, no, pound.
Come, take it, my boy, take it.
Je remercie infiniment.
Good afternoon,
sir. I should be honored to shake you by the hand. A heart of gold, sir, if ever I saw one in my life.
Not all.
Come now, old chap, I've not always been all
Sylvia Scarlett de George Cukor, un film de 1935 où Sylvia Scarlett, donc bien évidemment Kate Hepburn, se fait passer pour une orpheline sans le sou, une orpheline française. Hein. Alors on entend déjà son goût pour les langues hein, qu'on découvrira sous une forme bien plus polissée au piano et en chanson quelques années plus tard dans Indiscrétion. Alors à l'époque, hein, son élément naturel c'est le théâtre, hein, bien plus que le cinéma. Et donc on l'entend bien dans l'extrait, elle a cette façon de parler flamboyante. On dit que pour le cinéma, c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il voit en elle, Marguerite Chabrol? Qu'est-ce qu'il voit en elle, George Cukor? Il faut préciser que c'est leur troisième film ensemble. Hein. Ils viennent de tourner Les 4 filles du docteur March, où Hepburn jouait d'ailleurs déjà hein, un rôle de garçon manqué.
En fait, y a des choses qui paraissent pas évidentes. C'est qu'effectivement, de se dire qu'elle parle français, qui est peut-être une langue trop élitiste pour le grand public du cinéma, ça pourrait être un obstacle à ses débuts de carrière cinématographique. Mais c'est l'époque où venir du théâtre est plutôt un atout. Le tout début des années 30 avec le parlant, c'est le moment où Hollywood fait devenir massivement des acteurs et des coachs vocaux, en fait, à Hollywood, pour mettre tout le monde à la parole. Donc, tous les acteurs qui ont une forme de compétence vocale particulière, ce qu'elle a en partie, sont plutôt valorisés dans les débuts du parlant. Et à ce moment-là, elle n'a pas encore connu ses pires disgrâces, en quelque sorte, au cinéma. Et au moment où ils font le projet, le pari semble valable à cause de la place de cette culture théâtrale, y compris dans le cinéma qui est plus populaire et plus accessible. Alors, le français est supposé être comique, évidemment, comme dans la comédie new-yorkaise aussi, c'est-à-dire parler français, c'est un signe de prétention aristocratique, souvent tourné en dérision. Et donc, ça pourrait marcher comme ça, sauf que dans le film, c'est un peu particulier, puisque ça sert surtout à multiplier les formes de déguisement et de travestissement. Et pour répondre à ce demandé sur ce que Cukor voit en elle, c'est effectivement lui qui a lancé sa carrière hollywoodienne à l'issue d'un certain nombre de tests qui ont été faits, qui ont laissé perplexes quelques producteurs, parce qu'elle a un physique qui ne correspondait pas effectivement aux standards de l'époque. Mais c'est sans doute justement cet aspect théâtral qui a lancé son début de carrière. C'est-à-dire qu'elle était très clairement pas dans les beautés glamour qu'on faisait venir pour faire du rêve, mais elle faisait partie des gens qui sont arrivés avec la culture théâtrale du parlant.
Julie et Clara Kupperberg, il y a un côté, hein, comme le disait Marguerite Chabrol, un peu burlesque dans la scène. Alors, il y a une sorte d'excès du corps. Chez Hepburn, il y a ses jambes qui sont interminables, il y a les bras très longs, comme si on a l'impression que son corps l'encombre un peu et qu'en même temps, il y a une forme de gaucherie chez elle dont elle joue très bien.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, ce physique se collait tellement bien à un genre où elle a excellé, qui était la screwball comédie. Qu'on appellerait aussi comédie loufoque, c'est-à-dire qui ne jouait pas sur les archétypes de la vente, de la beauté, etc., mais plus sur l'ajoute verbale. Et donc, c'est vrai qu'elle excellait là-dedans, surtout avec corps, parce que justement, elle avait ce physique atypique pour Hollywood à l'époque. Elle n'était pas ce qu'on appelle pigeon-holed, c'est-à-dire elle n'était pas bloquée dans le rôle de la vamp ou de la girl next door. Elle avait une palette assez large.
Cukor, il va jouer dans sa vie, Marguerite Chabrol, un rôle très important, un rôle qui est à la fois humain et artistique, même sur les films sur lesquels ils ne travaillent pas ensemble. C'est une sorte de conseiller. Est-ce qu'on peut dire que c'est un conseiller de l'ombre pour elle ?
D'une certaine façon, puisqu'il a effectivement été un interlocuteur constant dans sa carrière, puisque c'est lui qui l'a découverte en quelque sorte, et ils ont tourné ensemble jusqu'à des téléfilms très tardifs dans les années 70. Donc ils ont été des partenaires artistiques tout au long de leur carrière respective. Je pense que chacun représentait une forme de partenaire idéal pour l'autre, c'est-à-dire que pour Cukor, Hepburn était une des actrices qui l'a le plus intéressée dans ce qu'elle pouvait incarner par son originalité. Et inversement, pour Hepburn, Cukor était le bon metteur en scène en quelque sorte, c'est-à-dire celui qui l'aidait à lisser son jeu, à ce que justement ce qui était singulier ressorte, mais sans être agaçant ou excessif.
Il va lui prodiguer beaucoup de conseils à Hepburn, il va tenter de gommer certains tics, hein, par exemple cette tendance qu'elle a à être hyper dynamique et agitée, Marguerite Chabrol, et dans le même temps, il est hyper émerveillé par son professionnalisme. Est-ce que vous pourriez, parce que vous citez les exercices auxquels elle s'astreignait tous les jours, des exercices de diction, entre autres, et c'est assez fabuleux.
Ce que Cukor admirait chez Hepburn, c'était, comme d'autres d'ailleurs, sa discipline et le fait que c'est une actrice qui travaille aussi bien le corps que la diction. Et donc, dans sa formation théâtrale, en fait, Hepburn a suivi des formations de coach de théâtre new-yorkais qui lui faisaient faire, ça se trouve dans les années 20, des exercices qui sont liés, en gros, à l'idée de coder un petit peu les émotions. Donc, chaque geste du corps peut incarner une émotion particulière. Et dans ses notes de travail, on trouve le récit de ces exercices, alors c'est du style télégraphique puisque ce sont des notes de travail, mais ce sont des choses qu'elle a faites tout au long de sa carrière. Donc par exemple, pour travailler les mouvements du visage, on a des notes, alors je traduis en français bien sûr ce qu'elle a écrit. Lever et abaisser les sourcils, surprise, mépris, surprise. Répétez un fois, rouler des yeux, remonter et descendre le nez, joue, remonter chaque côté 10 fois, alterner 10 fois. Lèvres hautes, baissez 10 fois. Lèvres du bas, pincez vers le bas, comme pour faire la moue, 10 fois. Relâchez la mâchoire et la remontez très vite. mouvement souple, mâchoire de marionnette. Donc toutes ces formules sont ses notes de travail à elle sur la façon de décrire un petit peu tous ces micro-mouvements du visage qui font écho à ce qui peut être généralement des mouvements du corps qu'elle travaille aussi de façon très sportive pour un certain nombre de cas. Et c'est assez typique de ce qui t'enseigne à New York dans les années 20, ce type d'exercice, et qu'elle a fait perdurer même à une époque où d'autres tendances de jeu d'acteurs avaient dominé, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'influence delsartienne de François Delsarte, qui a beaucoup marqué la danse new-yorkaise, c'est-à-dire une façon de travailler tous les mouvements dans l'idée qu'ils allaient chacun pouvoir incarner une émotion particulière. Et c'est cette influence-là qu'elle a conservée toute sa carrière, même à l'époque ensuite où l'acteur studio a dominé, par exemple, les enjeux des échanges entre le théâtre et le cinéma.
Et vous disiez tout à l'heure, Marguerite Chabrol, qu'elle est, elle est très atypique, son physique, bien sûr, mais elle a un côté aussi, on dit d'elle, en fait, à l'époque, qu'elle est exotique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle brave les conventions parce qu'elle porte des pantalons? Ou est-ce qu'il y a aussi des allusions au fait que, elle est bisexuelle, elle préfère les femmes? L'affiche de Sylvia Scarlett parle de gay Hepburn, qui peut s'entendre un peu comme en français, comme un sous-entendu, à la fois au fait qu'elle est gay dans le film, mais aussi qu'elle est peut-être aussi plus portée sur les femmes que sur les hommes.
Alors, sur le mot gay, à l'époque, seulement les initiés comprennent. C'est-à-dire que c'est pas trop risqué de le dire dans les années 30 parce que ça apparaît pas trop comme une proclamation grand public. Mais le mot exotique peut être associé à ça. C'est-à-dire exotique dans les années 30, c'est Garbo et Dietrich. Les deux grandes stars de MGM et Paramount, ce sont des stars étrangères importées d'Europe et qui vont représenter une forme de chic européen qui fonctionne très bien dans la première moitié des années 30 où les accents sont importants, etc. C'est pas juste que vous pointiez ce problème de l'égotisme pour Hepburn, parce que maintenant, on va se dire que c'est l'actrice américaine par excellence. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a dû devenir américain. Elle n'était pas du tout perçue comme américaine à son départ, alors qu'elle incarne un milieu américain très typé, de la côte est, etc. Mais elle a dû le devenir, je dirais, dans les représentations. C'est-à-dire quelqu'un qui parle français comme on vient de l'entendre, c'est pas ça l'incarnation de l'américanité pour le grand public. Et c'est notamment la comédie qui va la rendre américaine et la façon de devenir un archétype plus ancré dans des types de films à succès à partir de la fin des années 30. Mais elle est pas évidemment américaine au début, elle est même surnommée la nouvelle Garbo quand elle commence son contrat à RKO. Elle est perçue comme de la famille de ces stars européennes, en quelque sorte, qui donc sont un peu sophistiquées, aussi bien sur le plan intellectuel que le plan de la sexualité.
Alors justement, on va l'entendre dans une extraordinaire comédie, peut-être un des sommets de la comédie. On va vous faire écouter une drôle de sérénade entonnée de nuit par un étrange quatuor, un fox terrier, un léopard de belle taille, une héritière et un paléontologue. Extrait, bien sûr, vous l'avez compris, de Bringing Up Baby, l'impossible Monsieur Bébé.
Oh, look, David. Baby's on the roof. Come on, baby, come on down. Come on. Oh, David, make him get down.
I suppose you'd like me to climb up and push him down. Oh.
Well, maybe we better sing. I can't give you any... Well, sing, David.
I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I can give, baby.
L'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks en 1938, en sommet de la screwball comédie, la comédie loufoque, où on voit une héritière excentrique, Hepburn, bien sûr, qui court après deux lièvres, si je puis dire, son léopard de compagnie, le fameux bébé, et un savant ébouriffé, enfin ébouriffé, il ne l'est pas au début, mais il va le devenir de plus en plus. Alors déjà, on voit qu'elle aime bien malmener ses partenaires, ici Cary Grant, dans le rôle du paléontologue, plus tard ce sera Spencer Tracy, ou en tout cas Julia et Clara Kupperberg, c'est comme ça que les cinéastes la voient.
Vous parliez de screwball comedy, c'est parce qu'elle correspond bien au genre, justement. Il ne faut pas oublier qu'on est dans les années 30, qu'à cette époque-là, à Hollywood, il y a ce qu'on appelait le code de censure, le code Hays, qui interdisait tout rapport sexuel, enfin toute connotation sexuelle dans les films. Tout était très codifié. Et donc, tout passait par le langage, par la gestuelle, le langage et les sous-entendus. Et donc, c'est vrai que dans Bringing Up Baby, justement, Catherine Hepburn représente parfaitement cette femme forte qui va mener l'homme par le bout du nez, à la baguette, et qui était quelque chose de très caractéristique de la screwball. Il n'y a pas d'enfant, les femmes n'ont pas d'enfant, elles sont généralement toujours un animal qui crée des situations totalement burlesques, loufoques, absurdes. Le bébé, c'est la panthère. Et donc, il y a tout ce jeu, comme ça, de séduction entre l'homme et la femme qui passe par la violence verbale. Et la violence, même souvent physique. C'est plein de sous-entendus. D'ailleurs, dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène incroyable où Cary Grant est en robe de chambre de femme et saute sur place en disant « I'm gay ». Et donc, voilà, pour l'époque, c'est quand même incroyable comme genre de scène. Pleine de sous-entendus, justement, et de sous-textes qui faisaient le charme de toutes les screwball comédies.
Oui, et puis il faudrait décrire aussi cette incroyable robe de chambre que porte Cary Grant, parce qu'elle est complètement... elle est en mousseline.
Voilà, il y a des plumes. C'est une robe de femme, en fait. C'est une robe de chambre de femme.
Oui, c'est ça, très froufrou, très froufroutante. Et à l'inverse, Julia et Clara, il y a quelque chose chez Hepburn qui appelle le dressage. Alors bien sûr, il faut y voir la misogynie des studios, j'imagine, face à une femme indépendante, forte, sûre d'elle. Mais c'est aussi peut-être, serez-vous d'accord avec moi, parce qu'il y a quelque chose de très violent en elle.
Oui, il y a quelque chose de violent, presque de révolté. Moi, je trouve que dans ses films, elle représente ça. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui lui a joué des tours. Enfin, elle avait une réputation voilà, froide. D'ailleurs, qu'elle a pris à contre-pied dans Philadelphia Story, où le rôle a été écrit pour elle, justement. C'est ce que vous disiez au début de l'introduction, mais elle était surnommée le poison du box-office. Donc, c'est vrai qu'elle n'avait pas un capital sympathie très fort à ce moment-là.
Marguerite Chabrol, justement, ce film qui aujourd'hui est considéré comme un sommet du genre, ça va être un échec total. C'est le début de ses ennuis. C'est le moment où effectivement, comme disait le rappelait Julia et Clara, on l'appelle box office poison, donc le poison du box office. Hein, c'est l'association des exploitants indépendants qui l'appelle comme ça. Elle est en bonne compagnie, hein, il faut dire. Au côté d'elle, il y a Joan Crawford, Marlène Dietrich, Greta Garbo. Bon, il faut voir qu'elle est à un moment clé de sa carrière. Elle a déjà accumulé pas mal d'échecs commerciaux. Elle est moquée, elle est caricaturée dans la presse, elle fait l'objet de plusieurs numéros satiriques. Ça pourrait bien être l'orée des années 40, la fin de sa carrière, non ?
Ça a failli l'être, effectivement. En revanche, comme vous le disiez, ça la concerne pas simplement elle. C'est-à-dire que ce phénomène des poisons du box-office, ça a été beaucoup repris dans les histoires du cinéma parce que ça a été une crise pour certaines stars. Mais il faut relativiser aussi le poids des exploitants indépendants dans le cinéma de studio. Mais ce que ça révèle surtout, c'est, je pense, une crise aussi de la conception de l'écart entre le cinéma populaire et le cinéma artistique. Toutes les stars qui sont en danger, on leur reproche de faire des choses trop pointues. On leur dit pas qu'elles sont mauvaises actrices, on leur reproche surtout de faire des choses inaccessibles. Et progressivement, à la fin des années 30, toutes les stars qui étaient plutôt spécialisées dans le mélodrame et des rôles sérieux, en fait, et Burn avait aussi tout un volet mélodramatique au début de sa carrière, se retrouve en difficulté parce que trop pointue pour le grand public. Et Hepburn, en plus, est ridiculisée par les caricatures parce qu'elle est décrite comme arrogante, notamment parce qu'elle a des très mauvaises relations avec la presse, parce qu'elle refuse les interviews ou alors elle raconte n'importe quoi aux journalistes. Ce qui fait que, bon, c'est drôle a posteriori, mais sur le moment, elle est perçue comme complètement ingérable. Et donc, la comédie, c'est aussi une réponse à cette crise. Et d'ailleurs, Marlène Dietrich se met aussi à la comédie à ce moment-là. Même Greta Garbo va tenter la comédie, avec Ninochka, le fameux Garbori. Donc, les stars qui étaient en danger, qui ont toutes failli perdre complètement leur carrière à ce moment-là, se sont en partie reconverties vers la comédie. Et pour Hepburn, la comédie, c'est la manière de répondre aux caricaturistes, c'est-à-dire de montrer qu'elle a de l'autodérision, ce dont on ne la soupçonnait pas à ce moment-là. Et donc, la comédie qui n'était pas son genre de spécialité au début, est une sorte de solution aussi à une situation assez inextricable dans laquelle elle se trouve autour de l'impossible Monsieur Bébé en 38, qui est la première réponse significative à ce problème qu'elle a rencontré.
Une déesse, une statue de bronze, tombe de son piédestal dans les bras d'un jeune journaliste ambitieux. C'est le face-à-face surchauffé entre la richissime Tracy Lord, Kate Hepburn et James Stewart dans Indiscrétion, Philadelphia Story en VO.
Tracy.
What do you want?
You're wonderful. There's a magnificence in you, Tracy.
No, I'm getting self-conscious. It's funny, I... Mike, let's...
Yeah?
I don't know. Go up, I guess. It's late.
The magnificence that comes out of your eyes and your voice and the way you stand there and the way you walk. You're lit from within, Tracy. You've got fires banked down in you. Hearth fires and holocausts.
I don't seem to be made of bronze.
No, you're made out of flesh and blood. That's the blank, unholy surprise of it. Why, you're the golden girl, Tracy. Full of life and warmth and delight. What goes on? You got tears in your eyes.
Shut up, shut up. Oh, Mike, keep talking, keep talking. Talk, will you?
No, no, I've stopped.
Why? Has your mind taken hold again, dear professor?
Indiscrétion de George Cukor en 1940, hein, Kate Debburn qui est en train de chavirer littéralement dans les bras de James Stewart, et puis un écart terrible entre ce qu'on voit à l'écran et ce qu'elle dit, puisque ce qu'elle dit en fait c'est « it can't be love », donc ça ne peut pas être de l'amour, sous-entendu entre deux personnes aussi éloignées socialement que nous le sommes. Et son rire, Marguerite Chabrol, son rire est incroyable, hein. C'est un rire tellement étonnant que vous lui avez consacré un chapitre passionnant de votre livre.
Alors bon, le rire fait partie de ces effets vocaux très marqués qu'on entend dans d'autres films, puisque dans L'Impossible Monsieur Bébé, il y a aussi des déclinaisons de rire ou d'effets de voix un peu similaires dans Sylvia Scarlett aussi. C'est qu'effectivement, elle n'hésite pas à forcer le trait et donc à transformer le rire presque simplement en effet musical, sonore, y compris à des moments où on les attend pas forcément, puisque là il y a un petit décalage par rapport à une scène qui est très écrite et très 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 dialoguée. Donc en plus dans cette scène, c'est amusant parce que ça crée une espèce de décalage au milieu de la grande scène romantique du film. C'est complètement incongru de le faire à ce moment-là, mais ça rappelle aussi l'inscription dans la comédie et le fait que dans le projet de ce film, la dimension romantique et la dimension comique fonctionnent complètement ensemble. Il fallait qu'elles fassent les deux en même temps. C'est-à-dire que cette comédie-là, qui est la plus écrite sur mesure pour remettre en jeu son image et reconquérir son public, c'est aussi une comédie romantique où elle doit montrer qu'elle sait jouer des scènes d'amour. Parce que les comédies précédentes, comme L'Impossible Monsieur Bébé, ont une dimension évidemment sentimentale, érotique, mais sur le mode qui a été décrit précédemment par Clint et Julia Kuperberg, c'est-à-dire le loufoque se substitue à l'érotisme parce qu'on ne peut pas faire de film qui représente ça plus directement. Et dans Philadelphia Story, elle a besoin d'une grande romance pour être crédible comme héroïne hollywoodienne romantique. Donc elle mélange un peu les deux, la dimension loufoque et la dimension sentimentale aussi. Et ce rire au milieu rappelle que on est dans la comédie, mais dans le passage central du film qui est moins comique, qui a plus pour objet de la rendre crédible.
Et je crois que c'est peut-être dans ce film, Indiscrétion de Cukor, qu'elle a le physique le plus incroyable de toute sa filmographie. Elle est à la fois androgyne, totalement sexy. Ce physique, hein, d'ailleurs vous le disiez tout à l'heure, hein, qui sera pour elle un véritable frein à Hollywood, hein, puisque le producteur mythique David Hasselhoff va l'empêcher de réaliser le rêve de sa vie, hein, qui est de jouer Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Et dans cette scène d'indiscrétion, Julia et Clara Kuperberg, il faudrait raconter comment elle est habillée, parce qu'elle a une sorte de robe armure étincelante et qui dit tout du personnage.
Oui, c'est vrai. Et puis, je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est qu'on n'a pas parlé de la dimension des classes sociales qui est très importante, parce qu'il y a la lutte sexuelle, bien qui passe par le langage, etc., parce qu'elle ne peut pas être montrée autrement. Et puis, dans Indiscrétion, Il y a aussi le rapport des classes sociales qui était très fort à cette époque-là, justement dans les screwball, les comédies, enfin, dans ce type de film. Et là, elle représente bien ça. C'est-à-dire qu'elle a en face d'elle un James Stewart qui ne représente pas l'aristocratie. Elle, elle est une aristocrate. Et en fait, elle a la tenue appropriée. C'est-à-dire qu'elle a une robe qui représente qui est presque comme une armure, finalement, et qui est quelque part désexualise aussi.
C'est une robe de sequin étincelant. On a presque l'impression qu'elle est cousue de strass.
Oui, complètement. Ça en fait presque une apparition, une vestale. Et en fait, c'est aussi histoire de se moquer, c'est que le rôle est fait pour se moquer d'elle quelque part. Elle représente une caricature de la froideur, de l'aristocrate, distante, hautaine. Et donc finalement, ces robes appuient son caractère et appuient ce rôle.
Évidemment, tout l'enjeu de cette scène avec James Stewart, ça va être de montrer que justement la statue de glace peut fondre. Et je voudrais revenir sur ce que disait la critique américaine, la grande critique du New Yorker, Pauline Kael. Elle aimait beaucoup comparer Kate Hepburn à Betty Davis, parce qu'elle disait ce sont les deux actrices les plus modernes d'Hollywood, les deux seules, qui ont eu le cran de jouer des femmes intelligentes assez indépendantes pour combattre les studios. Julia et Clara, de ce point de vue-là, elle est effectivement totalement unique dans le paysage, enfin presque unique.
Complètement, et comme Betty Davis, elle sort du lot parce que justement, elle ne représente pas les femmes très caricaturées, très cantonnées de l'époque, comme la Garth, la femme fatale, la vampe. Là, elle représente comme Betty Davis des femmes intelligentes, indépendantes, fortes, et qui vont tenir tête aux hommes, déjà, et c'est le cas de Catherine Hepburn dans pratiquement tous ses films, et elle est à égalité avec l'homme. Et ça, Bette Davis, pareil. Et elles ne sont pas donc sexualisées dans ce sens-là. D'ailleurs, elles avaient un physique à peu près identique, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas belles au sens propre du terme, elles n'étaient pas... elles n'étaient pas sexualisées, on ne mettait pas leurs attributs féminins en avant. Et donc, c'est ce qui en a fait aussi des icônes féministes. Car toutes les deux, aujourd'hui, elles restent quand même comme des icônes féministes, comme des femmes fortes, et comme des femmes qui ont compté. Et d'ailleurs, dans Madame Porte la Culotte, Adam Driel, il y a cette scène formidable avec Spencer Tracy, où il lui dit « Je veux une femme, moi, je ne veux pas une concurrente, je ne veux pas une rivale. » Et c'est ce qu'elle était, en fait, dans tous ses rôles avec Spencer Tracy, c'est aussi pour ça que le couple marchait tellement bien, c'est qu'elle était à égalité avec lui.
Alors justement, en voilà une d'icône féministe, tous à poil, dans une chambre à coucher new-yorkaise, où l'on va comprendre bien vite que la guerre des sexes peut se jouer dans toutes les positions et partout, y compris sur une table de massage. Extrait de Madame Porte la Culotte, George Cukor, 1949.
Tell me that judge is impartial. Mm-hmm. Every time I look up at him, I can just see him.
Quiet, please. It doesn't do you any good if you don't... Wait a minute. Relax.
I'm relaxed.
I can feel.
So can I.
You can?
Mm. Oh, what are you doing?
Testing.
Oh, thank you. Seems to me I need this more every year.
You're aging fast, that's all.
You can say that again.
All right, I will. You're aging fast, that's all.
Oh, and you're helping.
Done.
Oh, I thank you. Well, there'll be some news on the radio. You want to hear it?
If it's good news, yeah.
Well,
sorry.
I'll do my best.
Why don't they have all the good news on one station and all the bad news on another station? Wouldn't that be good?
I got the station with the bad news.
Getting awfully popular, Kip's song. I hear it everywhere.
So do I. I hear it sometimes even when it isn't playing.
Adios, adieu.
Un couple qui fait des étincelles, hein. Kate Hepburn, Spencer Tracy, alias Amanda et Adam Bonheur, alias Pinky et Pinky, donc deux avocats new-yorkais qui vont s'entre-déchirer en défendant alors lui un mari infidèle, elle la femme du dit mari qui a tenté de le tuer au revolver. C'est Madame Porte la Culotte, Adam's Rib, en 49, vous en parliez tout à l'heure, Julia et Clara Kupperberg. C'est un film très féministe pour l'époque. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se joue dans cette scène?
Ce qui se joue, en fait, c'est que déjà, on peut dire qu'elle est avocate Et ça, c'est très important à soulever parce que dans les films de l'époque, les femmes, elles sont souvent secrétaires ou vendeuses. Et là, tout d'un coup, elle est à l'égalité avec l'homme. C'est-à-dire qu'elle est avocate comme lui. Et c'est quelque chose qu'on voit, c'est curieusement, dans le genre de la screwball comédie. Par exemple, si vous prenez La Dame du Vendredi avec Rosalind Russell, elle est journaliste. Et tout d'un coup, les femmes, c'est pour ça que ça en fait un film très féministe, c'est que la femme a un métier à égalité avec l'homme. Elle n'est pas à la maison, elle n'est pas en train d'élever des enfants, il n'est jamais question d'enfants dans ce genre de film. Et Catherine Hepburn, elle représentait ça. Et c'est un, pour moi, je pense que c'est pour ça qu'elle est devenue une icône féministe et qu'elle ne doit pas abandonner son travail. Et là, il se joue que dans tout le film d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il dit « je veux pas d'une rivale, je veux une femme », etc. et qu'elle le met dehors, c'est qu'elle ne doit pas abandonner sa carrière pour son couple, pour son mariage.
Et donc, en fait, sur cette table de massage, hein, puisqu'ils sont en train de, se masser réciproquement, Spencer Tracy, qui est fou de rage, mais qui ne veut pas le montrer, va lui donner une grande claque sur les fesses, une grande fessée.
Voilà, une grande fessée, ce qui est caractéristique encore de la screwball comédie. On voit ça souvent, on le voyait dans les Huitièmes femmes de Barberousse entre Gary Cooper et Claudette Colbert. Et c'est parce que les femmes le rendent, en fait. Et dans la screwball, les femmes rendent le coup.
C'est ça, elle rend le coup. Et d'ailleurs, elle lui dit voilà. « Let's be manly », soyons virils. Elle lui donne un grand coup de pied. Et on voit que c'est une scène qui est assez difficile à jouer, enfin qui n'est pas facile pour elle, parce qu'elle doit à la fois jouer la colère, la tristesse, rester un petit peu, rester enfantine, hein, Julia et Clara. On voit que c'est compliqué de jouer les femmes de tête, les femmes qui résistent, tout en restant sympathique aux yeux du public.
Et oui, bah oui, parce qu'elle ne doit pas être antipathique. Et le fait de tout d'un coup être à l'égalité de l'homme et lui rendre le coup, ça peut la rendre antipathique. Donc il faut qu'elle arrive à trouver un terrain et à balancer, parce que c'est une star. C'est pour ça que c'est une star. C'est parce que elle arrive à faire cette balance.
Marguerite Chabrol, c'est le film de la rencontre, hein, de la rencontre professionnelle avec Spencer Tracy. D'ailleurs, je crois qu'au début, c'était pas vraiment lui qui était pressenti. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté, Kate Hepburn. En tout, ils vont faire 9 films ensemble. Hein, c'est son partenaire de prédilection et puis il sera aussi l'homme de sa vie. Elle disait, je vous cite, « Je suis une bonne actrice, mais je ne crois pas être un génie. Moi, je suis efficace. » Contrairement à Spencer Tracy, dont elle admirait plus que tout le minimalisme. Et d'une certaine façon, Marguerite Chabrol, pour elle, c'était un peu le complément, c'était le complément idéal à l'écran.
Alors oui, alors c'est pas le film de la rencontre celui-ci, puisqu'ils ont commencé avec Woman of the Year, c'est la femme de l'année en 42, qui là est le film de la rencontre, qui était plus sur le modèle romantique justement, où l'enjeu c'était de lui trouver dans la foulée de Philadelphia Story un partenaire romantique convaincant, mais effectivement dans l'opposition plutôt que dans la complémentarité. Au moment où ils font Adam Street, ils sont déjà installés, puisqu'ils ont déjà ils ont aussi fait d'autres, notamment Keeper of the Flame, j'ai oublié le titre français, mais
Gardien de la Flamme, mais j'ai oublié moi aussi.
La Flamme Sacrée, voilà, un film de la période de guerre qui beaucoup plus sérieux. Donc ils ont déjà exploré différents registres. Et Adam Smith, c'est le film qui va un peu fixer leur mode d'interaction privilégié et celui qui va rencontrer le succès pour la postérité, je dirais, parce qu'ils vont le reproduire ensuite, qui est celui de l'affrontement physique aussi, c'est-à-dire de doubler l'opposition des caractères par cette dimension d'interaction dans le jeu. Et effectivement, Spencer Tracy a réglé quelque chose dans la carrière de Catherine Hepburn, dans le sens où il a représenté le partenaire avec lequel ça fonctionnait auprès du public. Après la phase avec Cary Grant, qui marchait plutôt sur la similitude entre les deux, c'est-à-dire que Grant et Hepburn sont sur le même registre, très ironique, très expressif, avec un corps très présent. Avec Spencer Tracy, c'est un changement stylistique puisqu'elle trouve son contraire aussi. C'est-à-dire non seulement il représente symboliquement, socialement le contraire de ce qu'elle est, mais du coup, le contraste ressort. Et effectivement, ce minimalisme fait que de temps en temps, il y a des moments où c'est lui qui domine la scène. Il va falloir qu'elle baisse le ton, qu'elle chuchote comme lui pour être sur le même terrain. Et inversement, lui, quand il joue avec elle, se retrouve à aller plus loin dans l'expressivité, alors qu'en général, il fait rien et que l'anecdote couramment répétée sur Spencer Tracy, c'est « apprends ton texte et ne te cogne pas au décor ». mais jouer, c'est rien d'autre pour Spencer Tracy, alors qu'il a en face quelqu'un qui intellectualise le jeu, qui a réfléchi à l'avance à la façon dont elle allait tout interpréter. Et du coup, c'est ce contraste qui fonctionne aussi par opposition et complémentarité des contrastes.
Et on a l'impression qu'en fait, le duo Spencer Tracy Kate Bird, qui effectivement, on voit bien que Spencer Tracy lui permet à elle de faire des choses qu'elle ne peut pas faire avec d'autres partenaires comme James Stewart ou exemplairement Cary Grant. On voit bien qu'avec Spencer Tracy, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de la mégère apprivoisée hein, qui se joue.
Du coup, oui, parce que ce contraste fait qu'il y a un rapport de force qui est un peu différent d'avec Cary Grant. Et c'est en fait, ils ont décliné une recette qui a fonctionné effectivement au début. C'est-à-dire l'idée que, comme on est dans des films hollywoodiens dont la structure et le récit restent assez conventionnels, à la fin, il y a cet effet du retour à l'ordre. Mais souvent, je trouve que les commentaires sur ce film-là simplifient un petit peu cette idée de la mégère apprivoisée et du retour à l'ordre. Comme dans la pièce de Shakespeare, la mégère apprivoisée, il y a plein de façons différentes de la jouer. Il y a eu des versions au théâtre très anti-féministes, justement, parce que c'était la représentation d'une forme de soumission. Et au contraire, des versions, d'ailleurs, que Hepburn elle-même a jouées. Elle l'a jouée au théâtre, cette pièce. C'est une pièce qui traverse un peu sa carrière en filigrane. Et une manière de la jouer extrêmement démonstrative, où le rapport de force est clairement en sa faveur, même si la dernière scène, comme dans la pièce de Shakespeare, est plutôt un acte de soumission, mais qui n'est pas forcément à prendre au sérieux. Et cette structure de la mégère apprivoisée, Adam Swift, quand on regarde la fin du film, on peut prendre au sérieux le retour à l'ordre en se disant « bon, c'est quand même plutôt conservateur ». On peut aussi faire attention à la pirouette finale, où elle lui demande qui est le prochain candidat républicain. Je ne sais plus pour quel poste de gouverneur ou autre, parce que clairement, elle représentera le Parti démocrate et ça va repartir pour un tour.
I haven't even told you his name. Mom, it's John Wade Prentice. Isn't that a lovely name?
John Wade.
Joanna Prentice, I'll be.
Until today, I would never have believed that I could say such a thing. But when she fights you, I'm going to be on her side.
La bande-annonce de Devine qui vient dîner ce soir de Stanley Kramer, donc en 67. Hein, un film un peu lourdeau, qui n'est certainement pas le film le plus intéressant de Kate Hepburn, mais qui est politiquement passionnant, hein, puisqu'on y voit en 67 un couple blanc, donc très WASP, hein, Tracy Hepburn, qui voit ses convictions politiques de gauche, libérales, progressistes, antiracistes, mises à l'épreuve de la réalité, puisque le garçon que leur présente leur fille, hein, l'homme qu'elle veut épouser, est un médecin afro-américain joué par Sidney Poitier. Marguerite Chabrol, on est en 67, hein, je le disais, c'est un film qui vaudra son troisième Oscar à Kate Hepburn et qui finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, hein, en parlant de l'opposition démocrate-républicain, colle parfaitement à ses convictions politiques.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle fait le film. C'est clairement un projet de film à message pour le producteur et réalisateur Stanley Kramer, comme pour elle, plus qu'il y a d'enjeux artistiques au fond. Et puis, ils le font aussi en plus, en sachant que ça va être le dernier film avec Spencer Tracy, donc c'est un contexte un petit peu particulier. Alors, on peut le considérer comme lourdeau, précisément parce que c'est un film à message. Pour le coup, il y a aussi beaucoup moins d'ambiguïté idéologique que dans d'autres films avec Hepburn, qui sont en fait assez riches de contradictions, de tensions. Là, le film est plus unilatéral, disons, dans ce qu'il cherche à montrer. Mais il faut aussi le comprendre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'il a suscité des réactions assez différentes. Il y a effectivement les réactions qui consistent à trouver que le film n'allait pas assez loin, puisque un des reproches a été de considérer que le personnage de Sidney Poitier était finalement trop propre sur lui, trop bien éduqué pour représenter vraiment ce qu'était le sort des Afro-Américains à l'époque. Et d'un autre côté, il y a aussi eu il y a des preuves aussi d'une réception d'abord favorable simplement par le box-office, qui est un succès colossal, et notamment auprès des publics noirs américains. Il y a des témoignages qui montrent que certaines des scènes du film étaient, je pense à la scène où Hepburn vire sa collègue en la raccompagnant à sa voiture, c'est une scène qui était applaudie à Harlem ou dans les quartiers noirs où le film avait aussi été diffusé, puisque à l'époque le film avait été diffusé aussi bien dans des circuits dominants que dans les circuits plus réservés des salles de Harlem ou des salles de certains États américains.
Elle vire sa collègue, hein, il faut préciser, elle vire sa collègue parce que sa collègue a dit quelque chose d'extrêmement raciste.
Oui, tout à fait. Et donc, Hepburn représente assez facilement cette position antiraciste, même si en fait, sur le plan, j'irais privé ou réel, elle a jamais pris des positions très nettes sur ce sujet-là. Elle est identifiée comme une star politique. Elle a pris position dans le passé sur différents sujets. Mais par exemple, au moment du moment des droits civiques, elle n'est pas particulièrement active non plus. Elle connaissait pas Sidney Poitier avant, qui lui aussi est identifié sur ce terrain-là. Mais elle peut représenter l'antiracisme de l'époque. D'ailleurs, au moment où ils font le film, on dit que le film est lourdeau, mais le mariage interracial n'est pas encore autorisé quand ils commencent à faire le film. Donc, elle considère que ça fait partie du progressisme général qu'elle a toujours défendu à ce moment-là, mais elle n'est pas du tout sur des lignes de militants beaucoup plus radicaux qu'on pourrait trouver dans des films plus expérimentaux d'ailleurs. Il ne faut pas oublier que c'est un film grand public.
Elle va quand même devenir une sorte de figure du Parti démocrate. Avant, il y avait eu cet épisode incroyable avec le patron que vous citez dans votre livre, Marguerite, avec le patron de studio Louis B. Mayer qui obligeait ses acteurs, c'est incroyable hein, quand on y pense, à contribuer financièrement à la campagne des Républicains. Elle va refuser de participer à la cagnotte, ce qui se fait pas du tout à l'époque. On imagine, elle pourrait être blacklistée. Et Marguerite Chabrol, vous écrivez, elle milite, je vous cite, elle milite pour l'égalité des droits hommes-femmes toute la fin de sa carrière et guidée par une même obsession à concilier comédie romantique et discours engagé.
Oui, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, puisque par définition, la comédie romantique est un genre assez conservateur. Mais en fait, l'anecdote que vous évoquez avec Louis B. Mayer, ça date des années 30. C'est-à-dire qu'elle a été très tôt politisée à une époque où Hollywood ne l'était pas. Parce que maintenant, on a l'impression qu'à Hollywood, tout le monde est politisé, parce que ça correspond à l'état récent de l'industrie du cinéma. Mais elle a commencé effectivement au milieu des années 30. Dans cette campagne pour les élections du gouverneur de Californie, où clairement les studios voulaient défendre les Républicains parce qu'ils avaient peur d'être taxés par des crypto-socialistes qui auraient pris des impôts sur les studios qui généraient de la richesse pour compenser les problèmes de la crise économique. Et en fait, après, tout au long de sa carrière, Hepburn a été une Rooseveltienne fervente, c'est-à-dire qu'elle a même pris position dans les meetings pour les réélections de Franklin Roosevelt, notamment aux côtés d'Eleanor Roosevelt, qui défendent aussi des causes plus féministes. Mais c'est vrai qu'elle a pris des positions très engagées à différents moments, qui sont en partie identifiées comme socialistes selon le regard américain, parce que ça lui a valu des ennemis pendant la période de la chasse aux sorcières après la Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle a toujours défendu les causes progressistes d'une façon ou d'une autre. Mais après, selon les sujets, elle est allée plus ou moins loin aussi.
Et c'est son dernier film, devine, qui vient dîner ce soir, avec Spencer Tracy, hein, qui est en train de mourir littéralement de son alcoolisme sur le plateau, d'où cette histoire, alors vraie ou imprimée pour la légende, que Hepburn aurait pleuré de vraies larmes, Marguerite Chabrol, quand Spencer Tracy lui dit, en parlant évidemment des deux amoureux, si ces deux-là s'aiment moitié autant que nous, alors tout le reste me va.
Alors, j'étais pas sur le plateau, je ne sais pas si c'était des vraies larmes. Elle a un peu la larme à l'œil dans le film. De manière générale, il y a des plans. Le film est monté bizarrement parce qu'on voit qu'ils ont dû assembler des plans qui n'ont manifestement pas été tournés tous en continuité ou au même moment. Donc, si on regarde de près, le jeu d'acteur est un peu haché, en fait, dans ce film. En revanche, qu'il y ait une émotion réelle, c'est absolument certain, puisque quand elle a fait le film, elle a mis son salaire en gage, au cas où, en gros, Spencer Tracy mourait pendant le tournage, parce qu'il n'était pas, les assurances refusaient de le prendre en charge. Donc, qu'il y ait un aspect affectif dans ce film, c'est absolument évident, et que ça ait interféré peut-être avec certaines scènes, c'est probable, mais c'est difficile d'établir exactement quelles seraient des scènes où il y a une forme de vraie émotion qui transparaît, compte tenu de la façon dont il a été monté, en fait.
Et c'est vrai qu'elle a su magnifiquement évoluer l'âge venant, c'est-à-dire qu'elle a apporté beaucoup plus, comme vous le disiez, hein, d'émotions à son jeu, Marguerite Chabrol. Alors, on pourrait citer, bien sûr, African Queen, hein, où elle joue une vieille fille face à Bogart, qui va s'éveiller à la vie et à l'amour. C'est vrai que le personnage de la vieille fille, sur la deuxième partie de la carrière de Hepburn, il est quand même constant. Hein. On peut penser à un film méconnu mais magnifique de David Lean, Vacances à Venise. On peut penser aussi à un film qui va lui valoir un Oscar, La Maison du Lac, en 82. C'est un type de personnage qui va revenir sans cesse. Et elle a effectivement lui valoir une longévité extraordinaire. Alors là, pour le coup, presque unique.
L'archétype de la vieille fille, il lui colle à la peau dans les années 50 au cinéma. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant de regarder un peu ce qu'elle avait fait au théâtre en parallèle, parce que ça montre aussi un petit peu l'évolution de Hollywood dans les années 50. C'est-à-dire qu'elle est présente, elle est reconnue comme une actrice, elle monte en partie elle-même certains de ses projets, donc elle est active. Mais en fait, elle a du mal à trouver d'autres types de rôles au cinéma parce que l'archétype qui lui colle un peu trop à la peau, c'est aussi celui-ci à cause de son image d'indépendance. Donc en gros, au cinéma, soit elle est avec Sven Fortressi, soit elle fait des rôles de vieille fille. En revanche, à la même période au théâtre, elle fait complètement autre chose. C'est sa grande période shakespearienne. Et c'est là qu'elle trouve un certain nombre de rôles qui diversifient un peu son répertoire, mais que ne voient que les gens qui vont au théâtre ou qui suivent un petit peu cet aspect-là de sa carrière. Mais c'est ça qui l'a fait vieillir dans un sens où les comédies et les tragédies shakespeariennes qu'elle joue, parce qu'elle fait un peu de tout, renouvellent complètement sa palette de jeu, même si les gens le voient pas toujours, parce que progressivement, plus elle est connue, plus les gens disent elle ne fait que se jouer elle-même. Mais en fait, en travaillant les classiques du répertoire à partir des années 50, elle retravaille complètement son jeu. C'est ça qui va ouvrir à d'autres types de rôles, comme Soudain l'été dernier, ou des films beaucoup plus noirs qu'elle va jouer dans la suite de sa carrière, en parallèle à des comédies. Et du coup, en travaillant son jeu, en se renouvelant, je dirais, artistiquement, elle va garder une espèce de souffle qui va lui permettre de faire énormément de choses, et pendant un certain temps, ce qui explique en partie sa longévité, qui va à la fois rejouer des archétypes anciens, en reprenant toujours ses codes de la comédie romantique progressivement au fil des périodes. Et puis, il y a aussi tout son volet de tragédie, en fait. Elle a tenu pas mal de rôles de mère tragique aussi. Le plus connu, c'est, comme je disais, Soudain l'été dernier, mais il y en a d'autres un peu moins connus et qui sont associés à des auteurs de répertoire américain, donc Tennessee Williams, Jimmy Neal, Edward Albee. Et elle joue des grands rôles de répertoire, donc elle va obtenir une forme de reconnaissance aussi par son inscription dans le répertoire.
Elle est unique par sa longévité, elle est unique aussi parce que c'est une des rares, ou peut-être même la seule, qui embrasse théâtre et cinéma, radio, télévision, qui peut chanter, danser, faire le pitre, ou à l'inverse, jouer les aristocrates glaciales. Aujourd'hui, Julia et Clara Kupperberg, est-ce que vous lui voyez une descendance à Kate Hepburn? Au hasard, Kate Blanchett?
Bah oui, qui a joué son rôle d'ailleurs. C'est pas pour rien que Scorsese l'a choisi.
Marguerite Chabrol, est-ce que vous lui voyez une descendance à Kate Hepburn?
Non, enfin, Blondie, c'est intéressant parce qu'elle l'a imité et elle l'a fait très très bien dans Aviator et elle a compris le truc. Peut-être qu'elles n'ont pas le même rapport à la question du rôle de composition. Je pense que Kate Blanchett est beaucoup plus une actrice de composition et que la polyvalence se voit. Alors que chez Hepburn, en fait, ça se voit pas. C'est-à-dire qu'à cause de l'effet star, progressivement, tout le monde a perçu qu'elle jouait éternellement son propre rôle. Donc, c'est pas complètement évident de lui trouver un équivalent, parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui réussit. D'abord, c'est pas évident de le faire sur des actrices vivantes, je dirais, dans le sens où leur carrière n'est pas du tout finie et où je pense que la maturité et le vieillissement sont très importants pour percevoir ça. Donc moi, je saurais pas dire s'il y a des équivalents ou pas, parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui soit un peu rejeté par le système qui représente une forme de grain de sable dans l'engrenage et en même temps qui maîtrise les rouages de ce système. Donc c'est pas du tout évident à trouver.
Merci Marguerite Chabrol. À lire votre ouvrage passionnant et aussi très original aux presses universitaires de Rennes, Kate Hepburn, paradoxe de la comédienne. Merci beaucoup.
Merci.
Clara et Julia Kupperberg, il est encore temps de voir sur OCS le formidable documentaire que vous avez produit. Ça s'appelle Les sorcières à Hollywood. C'est un film qui corrèle l'évolution de la figure populaire de la sorcière à l'émancipation féminine, hein, dans la foulée du best-seller de Mona Chollet. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Guéré, à la réalisation, Fanny Renard et Fabien Mugneret. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma, avec une émission spéciale consacrée à Michel Piccoli, l'immense acteur Michel Piccoli, disparu le 12 mai dernier.
Tous les cinémas du monde sur RFI.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.